On continue la deuxième partie, évidemment. Comme à chaque fois, il y a toujours du déchet, hein, entre guillemets. Donc il y a des personnes qui s'en vont à la pause, mais il faut qu'on fasse une pause, sinon on tient pas. Bon, donc on va reprendre la deuxième partie. Entre une demi-heure et trois quarts d'heure, pas plus, parce qu'il faut reconduire les camarades à la gare de Lille, la gare Lille-Flandre. Donc, il y avait une série de questions posées avant la pause, et monsieur l'ambassadeur voulait répondre à deux, trois questions posées juste avant. Donc, je lui passe la parole.
Bon, avant la pause, il y a eu des interventions qui ne sont pas justement des questions qui ont été posées, mais plutôt des commentaires. Et il y avait seulement une question sur la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, et surtout la question de l'ami de la République centrafricaine sur comment Cuba peut aider au peuple de la République centrafricaine. Il faut tenir en compte la situation aujourd'hui au monde. Ce n'est pas comme dans les années 60. Le monde a changé. Et la structure économique mondiale a changé. La technologie a changé. Donc, si on continue à être marxiste, et c'est le cas au moins de mon côté, quand l'économie change, il faut que la superstructure change aussi, c'est-à-dire l'idéologie, mais aussi la politique. Il faut l'adapter à la situation du moment. Le cas de la République centrafricaine, c'est comme il a bien dit, c'est le cas du Congo, à RDC, c'est le cas de plusieurs autres pays. C'est une question d'unité. Si vous-même, la gauche, les progressistes, les révolutionnaires, vous n'êtes pas capable de vous réunir, de vous agrouper, de fixer des objectifs, ce sera impossible. Même si Cuba avait une armée de 300 millions de soldats aujourd'hui, c'est impossible. Et surtout parce que chaque fois que Cuba est venu en Afrique, à l'époque où on venait avec une aide militaire, c'était à l'appel d'une organisation bien formée et structurée. Mais c'est surtout parce qu'il y a un mouvement organisé dans les pays. Autrement dit, si on vient vous libérer, c'est un peu comme Bob Denard. Hein? Vous vous rappelez de Bob Denard? Alors, ce n'est pas une solution, c'est un conseil. Organisez-vous au pays d'abord. Quand on est, c'est ça le problème des Sud-Africains, des Namibiens, des Zimbabwéens à l'époque rhodésienne, qui étaient en exil. Eux, par nature, ils étaient éloignés beaucoup du terrain, et pourtant ils ne connaissaient pas exactement ce qui s'est passé dans le terrain. Donc, d'abord, c'était la lutte de l'ANC en Afrique du Sud, du SWAPO, c'était là-dedans. Et c'est surtout au pays où il faut s'organiser. C'est surtout là, parce que sinon, c'est comme dire, venez faire ce que je ne peux pas ou je n'ai pas voulu faire. À l'époque des années et des années, on avait une brigade médicale. Ça, c'est une anecdote. On avait une brigade médicale au Mali, 127 médecins. On avait même le seul centre d'ophtalmologie en Afrique qui se trouvait au Mali. Kidal, Tombouctou, ce sont des endroits qui paraissent très éloignés, mais pour les Cubains, ce n'est pas éloigné, ça fait partie de nos maisons. À Kidal, on a tué des journalistes français. Mais à Kidal, il y a eu toujours des médecins cubains. On n'a jamais eu un problème avec nos médecins, avec nos infirmières. Il y a eu toujours, toute la ville, il y a eu des Touaregs. Il y a eu des armées de libération, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Jamais il y a eu un problème avec des médecins cubains. Ce n'est qu'avec les djihadistes qui sont tombés, les djihadistes qui n'ont pas été financés, organisés par les peuples africains, mais par des puissances très éloignées de l'Afrique, qui l'ont utilisé d'abord pour faire tuer Mouammar Kadhafi, qu'on est ou qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on soit ou qu'on ne soit pas d'accord avec Kadhafi. On a tué un chef d'État en plein exercice. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Libye? C'est mieux qu'avant? C'est mieux qu'avec Kadhafi? Les djihadistes sont venus après les officiers de renseignement des pays occidentaux en Libye. Maintenant, on nous dit que les djihadistes sont des ennemis. En Syrie, qu'est-ce qui se passe? La semaine passée, il y a eu la 24e fois que l'Assemblée générale des Nations unies vote la résolution pour la levée des blocus. 191 pays ont dit oui, il faut lever les blocus. Il faut exiger aux États-Unis de lever les blocus. 191. Deux pays ont voté contre. Les États-Unis et l'Israël. Ça fait bon, Soudan du Sud. On a décidé parce que Soudan du Sud a là une grande production de pétrole et parce que les Chinois, la Chine, étaient au sud du Soudan, on a décidé d'un jour au lendemain de donner l'indépendance, de créer un nouveau pays à Soudan du Sud. La production du pétrole du Soudan, l'ancien Soudan, c'était 480 millions, 1000 barils de pétrole. 400 000, c'était au sud, 80 000 au nord. Voilà, tout de suite, on a organisé un référendum, tout de suite, organisé la communauté internationale. La communauté internationale s'est mise d'accord, 3, 4 pays, 5 pays. S'est mis d'accord pour. Et puis, on a décidé qu'il y a un nouveau pays, Soudan du Sud. Ça fait combien d'années que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé qu'il y ait un pays qui s'appelle la Palestine? 1947-48, il y a une résolution. Résolution qui était passée en disant le peuple juif a droit à un État. Le peuple palestinien aussi a droit à un État. Une résolution qui dort toujours. Et que les Américains empêchent que ça devienne réalité. Une résolution de la tricontinentale à La Havane, c'était 1966, janvier 66. Une des résolutions les plus importantes, c'est de ne pas cesser d'exiger au monde, aux assassins, d'éclaircir les conditions de l'arrêt, l'assassinat de Ben Barka et le lieu où ils l'ont caché, le corps. Et ça, aujourd'hui encore, on n'a pas fait lumière sur cette situation. Donc, quand on parle de la communauté internationale, on parle de qui? C'est maintenant que je dois commencer à faire une exposition, mais c'est déjà trop tard. Et puis, moi, je préfère le débat, je préfère discuter, pas négocier, discuter. Je préfère, bon, je peux commencer à parler de, pas comme Fidel Castro, 7h, 8h, mais je peux commencer à parler des choses que peut-être vous n'êtes plus intéressé. Donc, je préfère que vous posiez des questions, voir si entre Rémi et mon conseiller politique qui est ici aussi, Noslan, si on peut vous répondre. Merci.
Tiens, tu veux donner le micro à Roland? Et puis, hop, on donnera la parole. Bonsoir.
Une demande et peut-être une information. Une demande s'est adressée effectivement à l'ambassadeur de Cuba. Il est important que l'ensemble de ces des informations qui ont été dissiées ce soir, tant par effectivement Rémi que par Monsieur l'ambassadeur, puissent faire l'objet, en fait, on puisse avoir ces informations qui nous permettront ensuite de pouvoir mener notre travail de la façon d'information de la façon la plus efficace possible, quoi. Et dans le cadre de ce travail, il est important peut-être que Cuba puisse aider à ce qu'on puisse avoir accès à un certain nombre de documents qui sont liés notamment à l'expérience, à l'histoire de la tricontinentale. Quand on fait effectivement, bon, il y a eu Bandung avant, et ensuite, quand les effets de Bandung ont commencé à perdre force en raison du système néocolonial, hein, concrètement, eh bien, il y a eu effectivement comme réponse radicale à l'époque la tricontinentale. Et nous sommes dans une situation où, en fait, la jeunesse notamment n'a pas accès à ces informations-là. Et cela est dû à l'état du mouvement révolutionnaire, du mouvement communiste, du mouvement révolutionnaire de façon générale, du mouvement progressiste, et je dirais même des mouvements progressistes, y compris en Afrique. Ce décalage entre, en fait, la jeune génération qui n'a plus accès à cette mémoire-là, qui est diffuse et qui est parfois cachée, qui fait l'objet de complots, ça il faut le dire très clairement, et de forces importantes, il est important qu'on fasse l'effort de pouvoir, en fait, rendre accessible cette histoire, ces combats, ces luttes à la jeune génération. Ça, c'est une demande. La deuxième chose, il y a un camarade tout à l'heure qui a posé la question sur y a-t-il des pistes pour reconstruire des mouvements de solidarité comme à l'époque de la tricontinentale en tant que telle. Je voulais, pour moi, dire deux choses. Ma première demande là, elle est aussi liée au fait que il y a des processus aujourd'hui en Afrique qui sont des processus pas très visibles en surface, mais qui sont en réalité des forces d'émancipation de lutte en Afrique. Très concrètement. Je pense qu'une des manifestations, une des dernières manifestations de l'existence. Où on a vu effectivement il y a un an, je disais, une révolution qu'on pouvait caractériser, qu'on a caractérisé d'inachevée, qui sur la question de la révolution démocratique vient d'être achevée quelque part. Après, on verra les résultats des élections qui vont venir, qui s'en viennent bientôt au Burkina Faso. Mais donc, ça c'est la preuve qu'il y a des forces en Afrique qui sont en train d'agir, mais qui sont sous une chape de plomb terrible. Et dans un contexte géopolitique et géostratégique dangereux, Dixit, ce qu'a dit M. l'ambassadeur, la destruction de l'État libyen, qui devient un foyer, je dirais, de subversion de toute l'Afrique, à partir effectivement de la situation libyenne. Les Daesh en Syrie, c'est les Boko Haram, c'est les Moujao, et etc., etc. Et derrière lesquels, on sait qu'il y a effectivement les puissances impérialistes en tant que telles. Donc, avoir accès à ces informations-là, c'est mieux armer la jeunesse, y compris africaine, dans les enjeux d'aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci et bonsoir tout le monde. Alors, ma première question, c'est... Il m'a semblé que dans votre présentation, vous avez beaucoup occulté le rôle et l'implication d'Haïti dans la fermentation révolutionnaire, notamment au niveau militaire. Parce que des généraux haïtiens, notamment à partir de la révolution haïtienne de 1804, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, etc., se sont impliqués et ont formé également... Les militaires cubains qui vont plus tard libérer Cuba en 1868, comme vous l'avez rappelé. Il me paraît important de rétablir aussi cette précision-là, ou bien c'est aussi pour enrichir l'échange. Alors, ma première question, c'est Vous avez beaucoup présenté Cuba. Quels sont, à votre avis, les points faibles, ou bien quelles sont, à votre avis, les insuffisances de Cuba? Parce que j'ai presque écouté une présentation idyllique de la révolution cubaine, notamment dans sa coopération sud avec les pays africains. Quel est, là, je m'adresse par exemple à M. Rémy et à l'ambassadeur, quel est, à votre avis, ou quelles sont, à votre avis, les failles ou les limites qui ont permis à l'impérialisme de s'implanter ou bien d'empêcher que des expériences similaires puissent prendre forme en Afrique? Maintenant, une autre question, c'est, il me semble aussi qu'on occulte la dimension sécuritaire et géostratégique de la révolution cubaine. C'est-à-dire que, à partir du moment où Cuba, il y a un penseur qui disait « notre lutte n'est rien si le reste de l'humanité ou si ceux qui sont autour de nous vivent également dans une certaine précarité ou une certaine misère ». Donc je pense que sur le plan sécuritaire et stratégique, la pensée politique cubaine au niveau militaire s'inscrivait dans une logique de conforter et de renforcer la révolution au niveau interne. À partir de ce moment, l'expérience internationaliste s'inscrivait effectivement dans ce cadre-là, c'est-à-dire rechercher et consolider des alliances. Mais il m'a semblé surtout que vous avez occulté cette dimension-là. Parce que si Cuba va aider les pays africains, ou si elle va évidemment à leur appel, ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est aussi pour conforter sa dimension sécuritaire et géostratégique, parce qu'elle renforce ses alliances au niveau international. J'ai eu le sentiment aussi que vous avez beaucoup, vous avez occulté cette dimension parce que les États, évidemment, n'ont pas d'amis. Une dimension d'intérêt qui est présente. Cuba ne va pas aider les pays africains aussi pour ses propres yeux, mais c'est pour exporter un modèle politique, pour influer au niveau international, donc renforcer sa propre sécurité face à l'impérialisme. Donc voilà un peu mes deux questions. Merci.
On va répondre en tant que Cubain. Vous savez utiliser un mot qui pour nous, c'est presque une offense. Occulter, on n'a jamais occulté rien. Quand on a dû occulter quelque chose, ce n'est pas une question de sécurité. On ne pouvait pas envoyer des troupes cubaines en Angola en les publiant dans le journal Granma avant de les envoyer. C'est le moment où on a occulté quelque chose. On n'a pas occulté qu'il y ait une solidarité avec les Haïtiens et la révolution cubaine, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les Haïtiens et les Cubains qui se sont soulevés, qui se sont révoltés à l'époque. Il n'y avait pas de différence. C'était des Daoméens, c'était des Yoruba du Bénin qui se sont implantés qui ont été implantés à Cuba et en Haïti. La nouvelle chose, c'est que justement, c'est à partir de la révolution haïtienne que les premiers Français sont arrivés à Cuba parce qu'ils sont venus avec leurs esclaves, leurs plantations, leur savoir-faire du café, ils se sont implantés à Cuba. Mais on n'a rien occulté, au moins dans ma présentation, et j'en suis sûr que ce n'est pas le cas non plus du professeur Herrera. Faillité dans la coopération de Cuba avec l'Afrique. Il n'y a pas eu de faillité. S'il y a eu une faillité, c'est du côté des Africains. On a formé des médecins, on a formé des ingénieurs, et ils sont restés en Europe. Et nous l'avons formé pour qu'ils rentrent chez eux, travailler avec leur peuple. C'est la faillité. Ce n'est pas de notre côté. C'est le seul côté que vraiment on ressent dans notre coopération. Voilà pourquoi en Amérique latine, en 1998, quand on a ouvert l'école latino-américaine de médecine, c'est parce qu'il y a eu des ouragans en Amérique centrale, le médecin n'était pas suffisant, on a dit, bon, on va former des médecins à Cuba. Et la seule condition qu'on a mis, chaque étudiant qui vient ici doit signer un papier en disant, dès que je termine, je rentre à mon pays. Parce que l'expérience négative qu'on a eue avec quelques étudiants africains, c'est ça. Ils sont restés à Paris, ils sont restés à Londres, ils sont restés en Espagne, au lieu de rentrer et aider ces gens. Et c'est la même question. Quand j'étais au Congo, chaque fois que je venais voir un ministre congolais, la presse congolaise venait me demander, Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que nous pouvons attendre de votre conversation avec le ministre? Qu'est-ce qu'on va recevoir après votre visite? Il faut pas toujours donner. Il faut produire. On vous apprend à pêcher. On ne peut pas passer toute la vie à vous donner à manger, à vous donner les poissons. Donc, c'est pas Mao non plus, hein. C'est la Bible. C'est Mao qui l'a pris de la Bible.
Mao, c'est comme
un chinois.
Il y a une autre formulation. Je ne veux pas que vous sentez que je vous attaque, comme vous m'avez attaqué en disant que nous avons occulté des choses. Mais il paraît que dans votre philosophie, vous avez beaucoup lu le monde. Quand vous dites que les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêt. C'est que si ce que vous dites est vrai, alors on n'a rien parlé ce soir ici. Quand on a parlé de solidarité, ce n'est pas ça qu'on a dit ici ce soir. Voilà. C'est pour cela que j'aime les débats. Je ne suis pas fâché. Hein. Je ne suis pas fâché. Mais si chaque fois qu'on parle, on répète la même chose, c'est ennuyant, c'est fatigant d'entendre la même chose. Il faut les interventions qui provoquent les débats, parce que les contradictions, c'est ça qui donne le développement. Voilà.
Bien. On a encore un peu de temps. Rémi, tu veux rien dire là-dessus? Non, c'est bon. Non. Il y a une question.
Et bonsoir à tous, mais excusez-moi pour mon français, c'est pas trop bien. Je m'appelle Carla, je suis venue sur Liane. D'abord, je dois commencer pour remercier les deux sujets de la nuit. C'est à l'Afrique et à la Cuba. Ce sont deux côtés qui sont très importants pour l'histoire, non seulement de Venezuela, mais de l'Amérique latine. Et vraiment, je comprends l'opinion de notre ami de dire que l'Haïti, bien sûr, elle aide surtout à l'indépendance de Venezuela, et on doit remercier toute la vie, on vient et on forme une partie importante d'Afrique grâce à la libération de tous les esclaves, notre libérateur, avec tous les Africains, ils sont réussi à libérer non seulement Venezuela, mais quatre pays plus de l'Amérique latine. Justement, remercier beaucoup, évidemment, à Cuba, grâce à l'alliance entre Venezuela et Cuba, c'est possible la révolution qu'il a commencé à l'Amérique latine. Grâce à le président Chavez et à toute l'alliance acertada qu'a eu avec Fidel Castro, c'est que maintenant, on peut dire en l'Amérique latine, il y a un chemin différent, il y a un esprit entre nous, ou un espoir, excusez-moi. C'est vrai, vous avez parlé de quelques CD que nous avait fait le gouvernement de Cuba dans de l'accord de coopération, parce qu'évidemment, toutes les nations doivent se coopérer. Cuba nous a aidé d'abord à réussir l'illettrisme en notre pays, après à solventer les problèmes de santé avec la mission Barrio Adentro, et encore à motiver la jeunesse à faire des sports, beaucoup de choses. Et on aidait aussi à Cuba, malgré tous les blocages qu'il y a des États-Unis, un blocage criminel, terroriste contre les peuples cubains. Et vraiment, on doit remercier beaucoup pour la résistance, surtout pour la dignité d'un peuple qui a servi pour nous d'une guide et de leader pour avancer un peu plus. On a avancé beaucoup grâce à notre président Chavez. Malgré ça, il est mort. Et nous que nous sommes les fils de Chavez, nous sommes les fils de Fidel, nous sommes fils de les Africains. Et il faut faire ensemble. Je ne sais pas, Chavez l'appelait une fois la cinquième internationale. Et c'est vraiment, à mon avis, super nécessaire. Nous avons maintenant une sélection qui sont vraiment difficiles dans notre pays, que de ça dépend un peu le rumbo de toute l'Amérique latine, parce que c'est à travers de Chavez et de Fidel que toute l'Amérique latine s'est élevée. Et dans ce moment, on est en train de vivre une crise, une intervention par les États-Unis. Bien sûr, on ne représente pas quelque chose de dangereux pour les États-Unis. Pour les questions, pour les choses militaires, bien sûr que non, ni Cuba non plus. C'est intellectuellement, c'est grâce à penser différent du capitalisme. On doit remercier beaucoup le président Chavez que maintenant on peut dire et parler librement du socialisme, avec fier de dire qu'il existe une possibilité, une action plus que le capitalisme. Avant, c'était impossible de faire ça et maintenant, nous avons toute la liberté. Bon, vous avez déjà parlé un peu, ma question, c'est, excusez-moi pour parler beaucoup, c'était qu'on sait déjà qu'il a déjà plus de 5 ans de blocage criminel terroriste, à mon avis, en contre de nos frères et sœurs cubains. Et malgré tous la demande qu'il a fait le gouvernement entre la ONU pour dire qu'il faut une intervention pour arrêter le blocage, et le blocage continue. La dernière réunion, comme l'ambassadeur vient de le dire, 192 pays ils votent à faveur, et ce que deux, États-Unis et Israël, ils votent en contre. Et le blocage encore est là. Et ma première question, à quoi ça sert la ONU? Pourquoi? Si. Est-ce que c'est États-Unis vraiment les propriétaires du monde? Pourquoi la décision des États-Unis à travers d'une organisation mondiale était supérieure à la décision qui a donné le reste de l'humanité? Et non, il n'y a pas une manifestation en contre ça. Mon opinion, à quoi ça sert la ONU et quoi est nécessaire, c'est aujourd'hui plus que jamais, ça s'acquiert international, parce que c'est comme si tout nous sommes dormis en face de la réalité. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui a représenté pour les peuples cubains les organisations internationales qui se sont créées dans les dernières années entre l'Amérique latine et les Caraïbes, comme l'ALBA, que c'est l'Alliance Bolivariana pour les pauvres de notre Amérique, Petrocaribe, que c'est l'alliance entre Venezuela et les Caraïbes, et la CELA, que c'est la communauté d'États latino-américains et les Caraïbes. Et seulement, c'est ça que je voudrais savoir. Pardon, c'est seulement ces deux questions. À quoi ça sert la ONU? Et si il a donné un apport, qu'est-ce que se représente à tous ces organismes internationaux qui se sont créés à l'Amérique latine? Est-ce que ça peut avoir un peu de plus de force que ce qu'on appelle ONU et les autres organismes internationaux qui sont évidemment dominés par les États-Unis.
Bon, d'accord. Bon, merci. Bon, c'est pas une question. Oh, oui. Oui, c'est moi. Bon, c'est juste, bon, je voudrais m'adresser à l'ambassadeur et à travers lui, à tout le peuple cubain, pour dire tous les remerciements du peuple de l'Afrique pour ce que Cuba a fait à l'Afrique. Je ne suis pas le premier à le dire, et j'espère ne pas être le dernier à le dire, parce que sans Cuba, l'Afrique n'aurait pas existé. Oui, et moi je le dis, parce que, oui c'est fort, mais je le dis, parce que quand même, le point clé de Cuito Cuanavale, c'était très important, et ça a vraiment débloqué l'Afrique, quoi qu'on dise, et c'est une réalité. Cuba a donné son sang pour l'Afrique, même quand les Africains eux-mêmes ont collaboré avec l'Afrique du Sud pour pouvoir justement maintenir l'apartheid, il a fallu Cuba pour venir débloquer la situation. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons la responsabilité de ce que ça a été l'Afrique. Et quelle que soit la situation, quand il y a eu, et je suis très content qu'il y ait eu la libération de Mandela, qu'il soit allé rencontrer le camarade Castro in vivo, et que de sa vie, et que ce soit là. J'étais très content que, malheureusement, au Burkina, je suis burkinabé, Thomas Sankara n'ait pas pu aller loin, parce que c'était une réalité, et on comprend pourquoi il fallait l'éliminer. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé, et on n'en est pas encore sorti de l'aubaine au Burkina. Parce que, heureusement, le peuple était là, et justement, ce qui s'est passé au Burkina, ce sont les effets de l'action de Thomas Sankara pendant 4 ans. Il n'a eu que 4 ans, il n'a même pas pu avoir les 4 ans. Il fallait vite, effectivement, l'éliminer vite, parce que sinon, dépassé, on ne pouvait plus l'éradiquer. Deuxièmement, il a été le seul, si je puis dire, en Afrique, il avait organisé justement, tout à l'heure, on a parlé de son dernier discours sur, OK, et justement, Bambaataa, à cette occasion, où il a été le seul pays africain justement, à mobiliser les Africains pour dire nous ne pouvons pas rester toujours comme pareil devant la situation du cancer de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça, ce n'est pas possible. Il a été le premier à l'organiser et il a donné symboliquement des armes à l'ANC et au mouvement de l'Afrique du Sud pour dire que bon, nous avons toujours été fautifs. Il a fallu que Cuba vienne nous libérer en Angola, donner son sang pour les Africains, quand nous-mêmes, Africains, nous n'osons même pas nous lever pour donner notre sang pour pouvoir libérer nos propres frères. Il a fallu des Cubains pour le faire. Et symboliquement, il a donné des armes à l'ANC, à la ZAPO et à autres pour dire, voilà, symboliquement, quelques semaines après, il a été assassiné. Voilà la réalité. Et tout à l'heure, on a dit que, monsieur l'ambassadeur a dit qu'au niveau des Africains, oui, on a formé, Cuba a beaucoup formé les Africains. Et très bien. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Effectivement, beaucoup sont restés en Europe, ailleurs, mais aussi sur le terrain. Quand tu as un diplôme cubain, tu arrives, si ce n'est pas un gouvernement qui est positionné et qui a cette position, tu es boycotté, tu n'as pas d'emploi. Parce que tu en crains que tu ne dissémines cette idéologie-là au niveau de ta population. Et jusqu'à aujourd'hui, au Burkina, depuis le décès, l'assassinat de Thomas Sankara, tous ceux qui ont été formés à Cuba n'ont jamais eu un emploi. Ils sont au chômage, ils sont docteurs, ils sont au chômage. Boycottés. Pourquoi justement Cuba va se sacrifier et former des gens et dont on a besoin et nous-mêmes à l'intérieur, on ne les utilise pas. Après, on voulait se plaindre. Non, il faut que ce soit nous-mêmes, on prenne nos responsabilités, qu'on reconnaisse devant les sacrifices des autres, que nous-mêmes en soient responsables. Donc, c'est ce que je voulais exprimer. Vraiment, merci.
Il y a à quoi sert l'ONU? Bon, c'est au moins en ferons des débats, en ferons des échanges. Et c'est la seule organisation qui parle de paix, sécurité, et c'est surtout pour éviter une troisième guerre mondiale. Quoi encore? C'est sous le contrôle d'un petit groupe. À quoi servent les organisations d'intégration en Amérique latine? ALBA, Petrocaribe, c'est ça une véritable coopération. C'est ça une organisation, ce sont des organisations solidaires. Ce sont des organisations qui travaillent sur les sociaux. C'est de prendre les ressources financières de la région en fonction des objectifs sociaux de la région. Formation des médecins, formation des universités, la santé, c'est ça. C'est un modèle d'intégration, un modèle de coopération, c'est Alba, c'est le pays de l'Alba, Petrocaribe, UNASUR, c'est ça. Ce sont des exemples de coopération. L'Union africaine nous a donné un exemple quand, en 1963, on formait l'organisation de l'unité africaine. L'Amérique latine, Amérique, c'est, ça fait quelques années qu'on a notre organisation, la CELAC, Communauté d'État latino-américaine du Caraïbe, 60 ans après les Africains. Les Africains ont leur organisation, il faut agir avec des objectifs communs pour les Africains. Et je reviens sur Haïti. Le seul pays au monde qui est venu à l'aide d'Haïti pendant les graves tremblements de terre, c'était Cuba. Le seul pays au monde qui est venu à l'aide d'Haïti pendant la pandémie de choléra, c'était Cuba, avec l'aide financière du Venezuela, avec l'aide du Brésil, et on a peut-être poussé pour que les États-Unis donnent un peu d'argent. L'Australie a donné un peu d'argent. La Namibie a donné beaucoup d'argent. Mais quels sont les pays d'Amérique du Nord qui ont venu à l'aide du peuple haïtien? Ça fait quelques années, Cuba a demandé aux Nations Unies, à l'Organisation Mondiale de la Santé, de donner les ressources financières pour que Cuba envoie 1000 docteurs en Afrique travailler, soigner des Africains gratuitement. On attend encore la réponse de la communauté internationale, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous n'avons plus besoin de parler de Cuba en Afrique. Cuba a de très bonnes relations avec tous les pays africains. Quand Sankara a été assassiné, on a dit c'est un problème interne. Vous le réglez entre vous. Quand il y a eu un problème entre la RDC et Rwanda, on a dit on croit à la sagesse. Cherchez la négociation. Cherchez à régler vos problèmes entre vous. La frontière entre Rwanda et le Congo, la RDC, c'est rien, c'est artificiel. C'est feu d'artifice. Vous êtes des frères. Cherchez des solutions. Vous êtes sages. Appelez les plus vieux. Ce sont les plus sages. Cuba a de très bonnes relations avec tous les pays d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a eu une position transparente. L'ANC d'Afrique du Sud, c'est un allié stratégique. Aujourd'hui, l'ANC est au pouvoir. On a essayé et on a réussi à faire une coopération triangulaire. Cuba n'a pas les ressources pour aider tout le monde. Les ressources d'Afrique du Sud ont été mises à la disposition des brigades médicales cubaines pour aller dans des autres pays africains. Sierra Leone, on a une brigade médicale en Sierra Leone payée par les Sud-Africains, par l'ANC. On avait une brigade médicale au Mali et à Burkina qui était payée par feu Muammar el-Kadhafi. La solidarité cubaine, bon, c'est pas, on ne l'a pas fait pour qu'on la fasse sortir dans des journaux. On a fait des actes de solidarité parce qu'on a senti, comme j'ai dit dès le début, que c'était une dette que nous avons avec l'humanité.